version originale.
Poésie en version originale.
الشعر في لغته الأصلية.
Poésie in der Originalversion.
Original version da Schirr. Poesia in versione originale.
Poésie en version originale. Une émission consacrée à la poésie dans sa langue originale, ou plutôt dans ses langues originales. Une émission pour les personnes souhaitant entendre de la poésie en italien, espagnol, portugais, russe, arabe, japonais, turc. Mais aussi une émission pour les personnes souhaitant dire, voire même chanter ou jouer ces poésies. Une émission multilingue, participative et poétique.
RDWA 107.5, avec maintenant à la suite de cet après-midi l'émission Poésie en version originale.
Super.
Donc là, de ce que j'ai compris, c'est votre première en direct.
Voilà, la première en direct. Les deux émissions précédentes étaient enregistrées en studio et ce n'était pas en direct.
Ouais.
Voilà. Donc c'est une première pour Poésie en version originale.
C'est un peu un lâcher-prise. Donc du coup, nous. Du moins, moi, je vais vous laisser Amis de la poésie.
Voilà, et Amis des langues aussi.
Hein. Et Amis des langues,
voilà,
exactement.
Et aujourd'hui, Amis des langues, slaves.
Des langues et de la poésie.
Voilà, slaves. Des langues et de la poésie. Voilà, parce que c'est le principe de l'émission, une émission à la fois sur la poésie et sur les langues. Les langues comme... La poésie comme une manière de faire découvrir des langues. Donc, c'est la troisième édition de Poésie en version originale. Et cette fois, on pourrait dire... que c'est en version originale au pluriel, hein, parce qu'il s'agira de plusieurs langues, même d'une famille de langues, et ce sont les langues slaves. Alors c'est aussi, cette émission est aussi l'occasion de rappeler qu'il y a eu pas mal de manifestations dans le passé consacrées aux cultures slaves, aux cultures de l'Est. C'était le festival Est-Ouest, mais c'est aussi le Café Andarta, avec Valentina, qui, depuis plusieurs années, propose le festival de l'âme slave et qui, aujourd'hui, est avec nous. Voilà. Alors, la famille des langues slaves, c'est une famille avec beaucoup d'enfants. Il y a à peu près 15 enfants, 15 langues slaves officielles. Alors, bien sûr, on ne pourra pas parler de toutes les langues slaves, mais heureusement, ces langues slaves, elles sont divisées en trois groupes. Alors, il y a les langues slaves orientales, dont fait partie le russe, notamment, qui est représenté ici par Valentina. Les langues slaves occidentales, notamment le tchèque, le polonais. Alors, ce sera moi qui représenterai ces langues, non pas en tant que natif, mais en tant que... je suis un peu tchécophone, je parle un peu tchèque, voilà. Et ensuite, il y aura deux autres invités, Diana et Milan, qui représentent les langues slaves méridionales, les langues slaves du Sud, et pour ce qui est de Diana et Milan, c'est le serbe ou le serbo-croate. On ne sait pas encore si c'est le serbe ou le serbo-croate. Donc, on va se décider ensemble de savoir est-ce qu'il parle le serbe ou est-ce qu'il parle plutôt le serbo-croate. Voilà.
Et je voulais juste faire une aparté parce que vous parlez de langue slave et on a dans nos studios une productrice de Radio Diwa qui s'appelle Ella Stanska, qui est d'origine polonaise et qui, je pense, pourrait aussi... Voilà, qui est dans cette culture slave, on peut dire ça.
Dzień dobry.
Donc voilà, et ben écoutez, moi je vous laisse entre de bonnes mains et de belles voix. À tout à l'heure.
Voilà, ben merci beaucoup.
Merci.
Donc ce sera l'occasion de faire entendre trois langues différentes, hein, avec une musicalité différente, et on verra que à l'origine de ces musicalités, il y a aussi des phénomènes d'accentuation, de phonétique, etc. Donc on parlera, sans rentrer dans les détails, un peu de l'accentuation, notamment en russe, avec Valentina, qui nous parlera du phénomène d'accentuation en russe, qui est à l'origine de la mélodie, de la musique de cette langue. Voilà, alors on va commencer, peut-être les invités vont commencer par se présenter. Valentina, как мы сказали по-русски?
Здравствуйте. Bonjour,
Ok. Diana.
Bonjour. Alors, ja sam Diana i kako rođena sam u Francusku. Tata mi je iz Srbije i mama mi je iz Hrvatske. Alors, je...
Oui.
Voilà. Et ben, je suis Diana et je disais que j'étais née en France. Ah oui, du temps de la Yougoslavie et que mon père était serbe et ma mère était croate.
Voilà. Bien, merci.
Et je parle.
Le serbe ou le serbo-croate?
On va voir après.
On va décider ensemble.
Okay, ou yougoslave.
Dobar dan, Milan.
Dobar dan, zdravo. Ja se zovem Milan, rođen sam u Jugoslaviji, koja više ne postoji, u delu u Srbiji. Tata mi je isto Srbina, mama Hrvatica. A Diana nije moja sestra. Nisu istina.
Diana n'est pas ta sœur?
Non, Diana n'est pas ma sœur. Donc je suis né en Yougoslavie, voilà le pays qui n'existe plus, donc la partie serbe, d'un père serbe et une mère croate. Et voilà, je suis arrivé en France, j'étais déjà grand quoi, j'avais 20 et quelques.
D'accord. Donc une enfance, une adolescence yougoslave.
Yougoslave, puis serbe, voilà, et compagnie.
Bien sûr. Valentina, je crois que tu veux nous parler un peu en russe.
Я могу, наконец-то я могу о себе сказать. Меня зовут Валентина. Я приехала во Францию из Москвы. У меня среди моей родни представлены русские, украинцы, белорусы. Я говорю на всех трех языках. Вот когда-то это был один большой, теперь три разных. И могу рассказать о том, насколько красивые эти три языка.
Спасибо. Valentina, tu peux traduire ce que tu viens de dire?
J'ai presque tout compris. Hein. Ouais, alors voyez, que c'est pas voilà. Du tout les langues proches.
Exactement, il y a une intercompréhension possible oui. Entre
donc,
les langues slaves.
Donc, je arrive en France parce qu'avant, j'ai été habitée à Moscou. Et ma famille est composée de trois différents peuples slaves, russes, ukrainiennes et belorusses. Je connais toutes les trois langues et donc je peux raconter.
Voilà, tu peux comparer un peu aussi oui. Ces trois langues.
Et donc je peux faire traduction aussi pour ça. Et ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant parce qu'il y a une histoire avec toutes les langues slaves. C'est très intéressant de choisir les racines pour tous les slaves.
D'accord, une langue qui soit... Il y a des racines communes à toutes les langues slaves qui remontent au...
Et donc, et ça, c'est vraiment, aussi, c'est très intéressant parce que si tu connais plus les langues slaves, tu peux comprendre plus. Donc, dans mon histoire, il y a une très jolie expérience quand nous sommes tous les trois. Donc, c'est moi, russe, Barbara, qui tchèque et une fille polonaise. Et nous avons parlé tous les trois. Chacun utilise son langue. Et nous tous les trois comprenons très bien.
Là, tu parlais justement de Barbara Čechová. Alors, c'est une chanteuse, hein, donc elle a enregistré il y a un moment un morceau avec notamment Annick Loyer. Et c'est un morceau qui appartient au folklore russe et qui parle de la Volga, qui est aussi surnommée en russe Matouchka, la petite mère. Et c'est Vnice. Matouchka. Donc on va écouter ce morceau pour introduire notre émission.
Не видно то.
écouté ce morceau donc, qui est chanté par des gens qui habitent dans le Diwa et qui ont fait tout un album de chansons, notamment russes, ukrainiennes. Il y a aussi des chants orientaux. Alors voilà, je vous lis juste la première strophe. On entendait au début « Vniz pamatushke pa Volgi ». Ça veut dire « En descendant la petite mer, la Volga ».« Vniz pamatushke pa Volgi, pa shirokemu razdolyu ». Dans la grande plaine. Alors, Valentina, il y a une musicalité particulière du russe, hein, pashirokemu razdolyu. D'où elle vient cette musicalité en termes d'accentuation? Comment ça se passe en russe, les accents?
Donc, il y a un exemple. Par exemple, tu dis po matushki. Parce que ton d'habitude français, faire tonique. Accent tonique dans la femme, mais il faut dire pas matouchki.
Ah, pas matouchki.
Voilà. Donc, par exemple, je donne exemple trois différents noms russes. Vous dites Pushkin, Dostoevsky, Turgenev. Mais non.
En français, on dit Dostoevsky, Dostoevsky. Et en russe, on dira
Dostoevsky.
Voilà, le O devient A.
Et vous dites Pushkin, non. Pushkin.
Voilà. Pushkin. Là, on allonge le ou. Pushkin.
Vous dites Tolstoy, mais non, Tolstoy.
Voilà, c'est parce que l'accent est sur toy.
Oui, et donc c'est O, si ce n'est pas accent tonique, donc c'est O un petit peu comme A.
Voilà,
là, c'est différent.
Okay. Si l'accent ne tombe pas sur le oui. O, le O se transforme en A, Tolstoy.
Il y a une autre nuance, l'accent tonique, elle peut être dans les différents espaces. Par exemple, il y a un verbe. Si vous prononcez писать, donc c'est écrire. Mais si vous êtes dans le même mot, vous changez accent tonique et vous dites писать, pardon, ça fait pipi.
Donc, c'est pisser en français, ça ressemble beaucoup au français d'ailleurs.
Voilà, donc il faut faire très très attention avec accent tonique.
Très bien.
Mais ça, c'est richesse notre poésie parce que c'est possible d'utiliser accent tonique pour faire les mélodies de poésie et mélodies de chansons.
Très bien, ça participe de la musicalité, l'aspect mélodieux de la poésie russe et
oui,
de la chanson. Très bien.
Et donc voilà, Nicolas, si tu es d'accord?
Oui, bah, donc, justement, donc, on parlait des auteurs russes, Dostoïevski, Pushkin, et là, ça sera
Turgenev.
Voilà, Turgenev, comme dirait le français.
Voilà, donc oui, français Turgenev, mais russe Turgenev, donc derrière, comme un petit peu comme et Turgenev.
Voilà,
donc c'est aussi dans cette spécialité. Et donc, j'aime beaucoup Ivan Sergeevich Turgenev parce que lui, il est connu ici, c'est plutôt comme quelqu'un qui fait les romans, histoires, etc. Mais il fait aussi, Turgenev, très grand poète. Et dans la fin de sa vie, il fait une série, les poésies, dans la prose. Et donc voilà, son poésie. Donc c'est moi qui lis russe et Nicolas après français. Как хороши, как свежи были розы. Где-то когда-то, давным-давно тому назад, я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною, но первый стих остался у меня в памяти. Как хороши, как свежи были розы. Теперь зима, мороз запушил стекла окон, в темной комнате горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол, а в голове все звенит и звенит. Как хороши, как свежи были розы. И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. Летний вечер тихо тает и переходит в ночь. В теплом воздухе пахнет резедой и липой. А на окне, опершись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, сидит девушка. И безмолвный пристально смотрит на небо, как бы выжидая появления первых звезд. Как простодушно вдохновенны задумчивые глаза, как трогательно невинны раскрытые вопрошающие губы, как ровно дышит еще не вполне расцветшая, еще ничем не взволнованная грудь, как чист и нежен облик юного лица. Я не дерзаю заговорить с нею, но как она мне дорога, как бьется мое сердце, как хороши, как свежи были розы. А в комнате все темней да темней. Нагоревшая свеча трещит.
Беглые тени колеблются на низком потолке. Мороз скрипит и злится за стеною. И чудится скучный старческий шепот. Как хороши, как свежи были розы.
Merci, спасибо, Валентина.
Браво.
Voilà. On a entendu beaucoup de choses là, même si on ne comprend pas le russe. On a entendu beaucoup de douceur. On a entendu rosy, как хороши, как красиви были розы, comme les roses étaient belles et fraîches. Milan, tu as compris quelque chose de cette...
Ouais, j'ai compris, ouais. Pas tout, bien sûr, mais voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, oui, les langues slaves, c'est comme il y avait plusieurs sous-familles où on se comprend mieux les uns que les autres, quoi.
Oui, ça dépend des pères.
Oui, par exemple, voilà, moi, qui parle, voilà, le serbe, et puis comprend très bien le croate et d'autres langues
t'es déjà habitué,
des pays d'ex-Yougoslavie. Je comprends mieux, par exemple, le tchèque que le russe.
D'accord.
Bah, on va dire le tchèque et les bulgares, mieux que le polonais, le russe. Comme s'il y avait des sous-familles ou...
Tout à fait, oui, il y a des ponts différents.
Des ponts où c'est plus facile de comprendre.
D'accord.
Voilà, mais on n'arrivait pas forcément à communiquer, quoi. Enfin,
très bien.
Avec très, très peu de mots, quoi. Il y a beaucoup de difficultés. Mais,
ouais. Ok. Bon, on reviendra sur cette question. Donc je vais lire la traduction de ce poème de Tourguenieff. Comme les roses étaient belles et fraîches, j'ai lu une poésie il y a longtemps, oh, bien longtemps. Je l'oubliais très vite, mais le premier vers m'est resté en mémoire. Oh fraîcheur, oh beauté des roses d'autrefois. Aujourd'hui c'est l'hiver, le gel a saupoudré de frimas les vitres de ma croisée. Une bougie solitaire brûle dans ma chambre obscure. Je me suis blotti dans un coin de la pièce et le souvenir scande inlassablement. Ô fraîcheur, ô beauté des roses d'autrefois. Je me vois assis à la croisée basse d'une maison de banlieue russe. Le soir d'été s'évanouit doucement, se fond avec la nuit, dans une odeur de réséda et de tilleul. Une jeune fille se tient sur le rebord de la fenêtre, appuyée sur son bras tendu en avant. Sa tête est penchée sur son épaule. Elle interroge le ciel, en silence, comme si elle guettait l'apparition de la première étoile. Que de simplicité et d'inspiration profonde dans son regard rêveur. Que de douceur et d'innocence sur ses lèvres entrouvertes pour une question inexprimée. Son sein, à peine éclos et vierge d'émotion, se soulève si tendrement, et son jeune profil est si pur et touchant. Je n'ose point lui adresser la parole, mais elle m'est si chère. Dieu, que mon cœur bat vite. Ô fraîcheur, ô beauté des roses d'autrefois. Il fait toujours plus sombre. La bougie crépite, des ombres fugaces hésitent sur le plafond bas. Le gel grince et s'irrite derrière le mur. Je crois percevoir un ronchonnement sénile et monotone. Ô fraîcheur, ô beauté des roses d'autrefois. Voilà, on a fait un petit saut à l'est, à l'orient des langues slaves. Et maintenant, on va aller en Europe centrale et en République tchèque avec le tchèque. Alors, chaque langue slave, de point de vue phonologique, a ses particularités. Et en tchèque, l'une des particularités du tchèque, ce sont des sons. Hein. Il y a le son, par rapport au russe, il y a un son qui n'existe pas en russe, qui existe, qui est important en tchèque, c'est le « h ». Ok, c'est c'est pas aussi dur que la rota espagnole. C'est une espèce de H expiré qu'on trouve aussi, je crois, en ukrainien, en polonais. Par exemple, en russe, pour dire la tête, on dira galava. En tchèque, on n'a pas le g, on a le h. On dira hlava. Okay, ça, c'est une spécificité du tchèque. Pour dire au revoir en russe, dasvidanie, en tchèque, naschledanou. Au revoir. Après, il y a un son qui n'existe qu'en tchèque et c'est le rj. On l'a par exemple dans rjeka, la rivière, mais aussi dans rjeknu, je dis rjeknu. Troisième chose importante en tchèque au niveau de l'accentuation.
Rjeknu, ça veut dire quoi?
Je dis rjeknu.
Ah ouais.
Okay. Rjekat, dire rjeknu, je dis. Okay. Et puis il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est la longueur des accents. qui marque aussi des différences de sens entre des mots. Par exemple, on a le mot « nouche », qui veut dire le puits. On a un « ou » qui est court. Et on a le mot « nouche », avec un « ou » plus long, qui est marqué à l'écrit, qui voudra dire « le couteau ». Comment on dit le couteau en russe
Nouche.
Voilà, nouche. En
tout cas. Nouche.
Voilà, voilà. Ouais. Donc, serve-nouche aussi.
Il n'y a pas beaucoup de différences. Voilà, on se rend compte. Bon, au niveau de l'écriture, il y a donc cet accent sur le « ou » qui marque la longueur. Donc, j'ai apporté un petit poème d'un tchèque, d'un écrivain tchèque qui s'appelle Miroslav Holub. Holub qui veut dire « la colombe ».
Golub.
Voilà, et là, en russe, on retrouve le « g » alors qu'en tchèque, on a le « h ». Le « h », ok. Et en serbe, Milan ?
Golub.
Tu es d'accord, Diana ?
Tout à fait d'accord.
Ok. Alors là, je vais d'abord le lire en français. Je vais changer la règle. Je vais d'abord le lire en français et après, je vais le lire en tchèque. Ok. Donc, c'est un peu comme c'est des poésies qui sont assez amusantes, en général. C'est le maître d'école. La terre tourne, dit le jeune élève. Que non, la terre tourne, dit le maître. Les montagnes reverdissent, dit le jeune élève. Que non, les montagnes reverdissent, dit le maître. Deux fois deux font quatre, dit le jeune élève. Deux fois deux font quatre, corrige le maître. Car le maître sait mieux. Učitel. Země se točí, říká žaček. Nikoli, země se točí, říká učitel. Hory se zelenají, říká žaček. Nikoli, hory se zelenají, říká učitel. Dvakrát dvě jsou čtyři, říká žaček. Dvakrát dvě jsou čtyři, opravuje ho učitel. Protože učitel to ví líp. Voilà, parce que le maître sait mieux. Protože učitel to ví líp. Milan, c'est clair pour toi?
Ouais,
je pense que...
Oui, totalement de comprendre, moi aussi.
Aussi?
Oui, bien sûr.
Voilà. C'était un petit exemple. Et voilà. Et j'ai pensé pour le deuxième poème. Alors, ce ne sera pas un poème, ce sera une chanson. C'est une chanson d'un chanteur tchèque qu'on appelle Bard. Les Bards, il y en a aussi en Russie. C'est des chanteurs, poètes, quoi, des chanteurs. Valentine, les Bards.
Plutôt poètes qui chantent, ces Bards.
Voilà, c'est des poètes qui chantent. Un peu, voilà, il y a Vysotsky en Russie, à Kujava. Et en République tchèque, il y en a un très grand Bard qui s'appelle Karel Krill et qui a été repris par un chanteur contemporain qui s'appelle Daniel Landa, et qui chante une chanson intitulée Bila Hora. Alors, Bila Hora, c'est le nom d'une grande bataille qui a eu lieu en 1620 et qui a opposé le roi tchèque protestant aux forces catholiques du Saint-Empire romain germanique et qui a été une défaite cinglante pour les Tchèques, pour les bohémiens qui étaient représentés ici par le roi et qui a marqué en fait une période de ténèbres un peu pour la langue tchèque puisque beaucoup de Tchèques eux-mêmes ont commencé à parler allemand, notamment dans les villes. L'allemand qui est devenu la langue des villes, des élites urbaines. Et peu à peu, le Tchèque a repris le dessus, mais très lentement, par un processus de réveil, un peu de renaissance nationale, notamment au 18e, 19e siècle. Ça a juste été au 20e siècle que le Tchèque est redevenu véritablement la langue des Tchèques. Quoi. Voilà. Donc on va écouter ce petit morceau de Daniel Landa, Bila Hora. Bila Hora, c'est une montagne qui est dans les environs de Prague, la montagne blanche.
Listopadu 1620 u letohrádku Hvězda na Bílé hoře zůstal z vojsk království českého poslední praporec, moravský praporec Šlikův. U zdi letohrádku padl do posledního muže, píseň nazvaná Poslední Moravan. Pod Bílou
štěstí má blato barvu perleťovou a zvony odletěly za větrem do Říma. Obzor srdí můj táto hanbou šarlatovou. Už jsme tu osaměli, z kříže se nesnímá. Prapory mlé už pálí ruce vlajkonošů. Jen oči pod přilbicí snad ještě doufají. A mlhy zlé se balí do děl od hravošů. I to ran na orlici, kterou už poutají. Rudý kohout na obzoru roztahuje spáry, hřeben větru rozčesává pera plamená. Věřili jsme na pokoru u popravčí káry, zlatá doba nenastává, bude kamená. Je prý to ctí až na dno zůstat pod prapory, mít duši nestydatou a mozek bez ceny. Být králem lstí a snadno vzít si bez pokory na svatbu se zubatou železné prsteny. Není to med za spíti číši vrchovatou a věřit na proroky v chorálu polnice. Sto černých let nám svítí hvězdou jedovatou na erbu pro otroky, pro naše dědice. Rudý kohout na obzoru roztahuje spáry, hřeben větru rozčesává pera plamená. Věřili jsme na pokoru u popravčí káry, zlatá doba nenastává, bude kamená.
Voilà, on vient d'entendre un morceau de Daniel Landa, Bila Hora. Alors, j'ai envie de vous, juste de vous lire quelques lignes de cette chanson pour que nos auditeurs entendent un peu du tchèque lu. Et après, on passera à la suite. Alors, Osmeho listopadu 1620 u Letohradku hvězda na Bílé hoře zůstal z vojsk království českého poslední praporec, moravský praporec Šlikův. Le 8 décembre 1620, au pavillon de l'Étoile sur la montagne blanche, resta de l'armée royale un seul porte-drapeau, le porte-drapeau morave Šlikův. Voilà. Alors, Valentina est ici et elle veut nous présenter le festival Lamslav de manière plus précise.
Donc, le festival Lamslav existe déjà quelques années. Bien sûr, deux années dernières, c'est un petit peu compliqué à cause du corona. Et donc, pour cette raison, année 2020, nous voulons faire la majorité de notre activité musicale et théâtrale dans le cadre de notre festival Lamslav. Festival Lamslav est organisé avec l'association Kaleidoscope et avec notre partenaire comme Radio Diva, comme Théâtre Dédi, Espace Social, etc. Nous sommes très ouverts et si, par exemple, chez vous, il y a quelqu'un qui habite ici à Dédi, mais il peut présenter notre famille slave, bienvenue chez nous. Nous sommes ouverts pour toutes les manières d'activité. Ça peut être musique, ça peut être théâtre, ça peut être gastronomie, ça peut être raconter histoire, c'est cirque, tout ce que...
Ouais,
tout,
les arts plastiques aussi.
Voilà, oui, comme Nicolas qui fait déjà quelques expositions chez nous. Donc il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble. Et donc, bienvenue chez nous, Festival L'Amslav, Association Kaleidoscope. Et vous pouvez trouver nous très facilement dans le Facebook Café Théâtre Andarta au Kaleidoscope. Voilà, L'Amslav. Il y a trois pages où vous pouvez trouver tous les notre coordination et travailler avec nous.
Très bien. Et le plus simple, ça reste de passer au Café Andarta.
Oui. Voilà. Oui, c'est plus facile parce que c'est majorité de notre activité, c'est Café Théâtre Andarta quand même.
Très bien.
Et puis c'est pour des événements tout au long de l'année.
Oui. C'est ça, tout au long, oui, ça dépasse le festival tout au long de l'année.
Voilà, qui normalement est en juin. Et là, vu les conditions, la situation sanitaire, on va préparer, enfin, et puis en règle générale, c'est toute l'année. Voilà, ouais, dans le cadre
des concerts, toute l'année.
De l'Amslav, oui.
Très bien. Donc, on est allé à l'est, on est allé au centre, Europe centrale avec le Tchèque. On survole bien sûr, mais c'est, au moins on entend des langues différentes. Et là, on descend vers le sud, vers le territoire de l'ex-Yougoslavie, avec Milan et Diana. Alors j'avais une petite question que j'ai posée en début de l'émission, mais peut-être que c'est pas évident. C'est une question qui est assez complexe. Vous avez le sentiment de parler le serbe ou le serbo-croate?
Ou le yougoslave, comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais.
Ou le yougoslave.
Voilà, ouais. Du coup, c'est comment on la nomme cette langue, c'est une question. Et puis l'autre question, c'est voilà, quelle région, du coup, enfin, ça appartient. Et après, aussi la question politique. Voilà, du coup, en tout cas, ce qui concerne l'ex-Yougoslavie, maintenant, on peut dire que... du coup, il y a eu la langue officielle de la Fédération yougoslave, c'était le serbo-croate, en sachant que, du coup, il y a aussi... Enfin, maintenant, on peut parler aussi du serbe, croate, bosniaque, monténégrin, qui sont, du coup, les langues très, très, très proches. Mmh. Puis il y a aussi le slovène
oui, très bien. Enfin, juste
au nord et le macédonien.
Juste une petite remarque de linguiste, c'est que les linguistes considèrent qu'il y a une espèce de quand même un consensus global, hein, notamment les linguistes qui ne sont pas ex-yougoslaves, de considérer que le bosniaque, le serbe, le croate et le monténégrin sont en fait des variantes d'une même langue qui serait un serbo, bosno, croato, monténégrin. Voilà.
Oui, grammaticalement, ouais, c'est la même chose. Puis après, au niveau vocabulaire, voilà, on a habité dans le même, dans le même pays, et du coup, au niveau vocabulaire, en tout cas moi, je suis sensible, aux mots en croate, que je n'utilise pas dans la vie quotidienne, mais voilà, si j'achète un journal en croate, je lis de la même manière qu'un journal en serbe ou en bosniaque. Enfin, de la même manière, c'est-à-dire que je n'ai pas de grosses difficultés. Certainement, je ne vais pas le comprendre, mais voilà, c'est
d'accord, c'est certains mots qui sont des espèces de marqueurs d'identité, en fait, des mots qui sont...
Les mots ou l'écriture, voilà, en Serbie, on a les deux écritures, du coup, l'écriture cyrillique et latin. En Croatie, l'écriture en latine. Latin, quoi, voilà, latine, et après, aussi des mots, voilà, où il y a les mots... Comme j'ai dit, voilà, les différences au niveau du vocabulaire, ou il y a aussi...
Au niveau de la prononciation aussi, il y a des petites différences de prononciation qui seraient extrêmement subtiles pour les gens extérieurs, mais qui sont auxquelles les Croates ou les Serbes ou les Bosniaques sont très sensibles.
Oui, c'est ça.
Il y a un exemple de mot comme ça qui est prononcé différemment et qui est un marqueur un peu d'identité ou de provenance.
Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure, Diana,
Il y avait mleko, mlieko.
Oui, ça, voilà.
Lepo, liepo.
Alors, lepo, ça veut dire quoi pour nos auditeurs?
Beau.
Voilà. Beau, joli.
Voilà. Et joli.
Alors, à Belgrade, on dira, qu'est-ce qu'on dira?
Lepo.
Lepo.
À Sarajevo.
Et par russe, lepo.
Lepota.
Lepota.
Voilà, même en russe, c'est un mot qu'on utilise. C'est ça.
Et donc, du coup, les différences, il y a des endroits où ça s'entremêle, du coup, c'est pas...
C'est pas aussi marqué
Les Serbes de Bosnie, voilà, ils vont dire lié pour Serbes de Serbie, lié pour... Enfin bref, c'est...
D'accord, mais ça peut être des marqueurs de, d'identité, quoi, pour les personnes...
Oui, voilà, et... Oui, bah du coup, voilà, si... Enfin, après la guerre, du coup, quoi, si on se retrouve dans un autre pays, bah, selon les endroits, on réfléchit deux fois avant de commander un café ou acheter du pain à la boulangerie, ouais.
Alors, par exemple,
ça peut être tendu. Quoi.
Imaginons dans un milieu sensible à Zagreb, qu'est-ce qu'on dira pour un café?
Bah, en Croatie, c'est kava.
On dira kava.
Ouais,
et à Belgrade?
Mais ouais.
Kafa.
Oui. Kafa, ouais.
Non. À Belgrade, on dira kafa. D'accord. Mmh. Diana?
Ce que je voulais dire, c'était que l'accent, oui, on pouvait voir d'où venait géographiquement la personne.
À l'accent.
Ah ben, à l'accent, oui, l'accent dont on parlait là. Mais moi, par rapport... j'ai parlé serbo-croate jusqu'à l'âge des 13... Jusqu'à 13 ans, dernière année.
Et après, il y a eu la guerre.
Quand j'y suis allée, voilà, j'y ai passé tous mes étés jusqu'à 13 ans. Donc moi, je naviguais entre le sud, le nord. Enfin, j'ai navigué dans la Yougoslavie. Et pour moi, c'était le serbo-croate. Après, voilà,
Dans ton esprit, tu parlais le serbo-croate, quoi.
Oui, voilà. Mais après, je peux reconnaître quelqu'un qui parle serbe et quelqu'un qui parle plutôt croate ou...
D'accord, mais tu ne fais pas la différence. Enfin, personnellement, tu ne te demandes pas si tu parles serbe ou croate, quoi.
Alors oui, quand je pars en Croatie... Là, c'est vrai que ces dernières années, je suis plus allée en Croatie, donc j'ai plus de vocabulaire, de lexique croate et une façon de parler croate, mais voilà, ça dépend où je vais...
Bien.
On s'adapte, hein, c'est ça, s'adapte.
Oui, on s'adapte, oui. Mais après, il y a des endroits aussi où les gens, ils mettent pas tant d'importance. Hein.
Ça dépend des zones. Il faut être attentif, quoi.
Oui, voilà. Du coup, il y a des endroits où pour les gens, ils vont faire une remarque, mais qui est pas forcément désagréable. Ouais.
Ok.
Et puis moi, du coup, ce que j'ai dit tout à l'heure, moi, je viens du Serbie du Nord. Du coup, dans ma famille, ma mère, je pense qu'ils sont arrivés, sa famille, la famille de mes grands-parents maternels, ils sont arrivés de Croatie quand ma mère, elle était petite. Du coup, elle parle le serbe du nord, le nord de Serbie s'appelle la Vojvodine. Du coup, il y a une manière de parler qui est très... On étire beaucoup les mots. Du coup, nous, le café, ça ne sera pas kafa comme à Belgrade, mais ça sera kafa.
Avec on allonge le A, quoi.
Ouais, voilà, on allonge les mots. Et puis, c'est marrant parce que du coup, j'adore la langue tchèque parce que du coup, il y a une manière aussi de chanter, d'étirer certains
mots.
Exactement,
oui, tout à fait.
Ouais. Un côté un peu plaintif, quoi. Et j'adore ça.
Nonchalant, plaintif.
Ouais,
ça rappelle un peu l'accent suisse, le français avec l'accent suisse.
Ouais, on allonge certains mots. Nani. Ouais, j'adore.
Bonjour.
Ça. Ouais.
Ok, très bien. Alors, Milan, tu nous as apporté une poésie, je crois.
Ouais, plusieurs, ouais. J'ai pas...
De Antic.
Ouais, de Miroslav Antic, ouais. On peut dire que c'est mon poète préféré. C'est quelqu'un qui, du coup, qui a fait aussi des poèmes pour enfants. Quand j'étais gamin à l'école, on avait préparé... une petite pièce de théâtre, quoi, avec un de ses poèmes.
C'est un peu un prévert.
C'est un peu, oui, on peut dire, c'est un peu un prévert voïvodinien, pour le coup, voilà,
d'accord.
Parce qu'il est du Nord, ouais, enfin, ou serbe, ouais, enfin, les deux. Et voilà, c'est populaire. Et en même temps, ouais, quand on lit ses poésies, y a plusieurs couches, ouais, c'est intéressant. Ouais. Un peu comme prévert, ouais. J'ai pas trouvé vraiment un poème. En tout cas, il y a plusieurs poèmes de lui que j'aime bien, mais du coup, là, j'ai pas vraiment trouvé de traduction en français, et puis j'ai pas eu le temps de le faire.
D'accord. Donc
mais du coup, j'en ai un. D'ailleurs, je vais lire d'abord, une petite présentation de lui. Du coup,
oui.
Alors.
En français
en français, ouais. Du coup, il le disait lui-même, ouais, voilà, j'ai fait n'importe quoi, j'ai été aide-maçon, ouvrier dans une brasserie, docker, marin, metteur en scène, je me suis occupé de plomberie et de canalisation, travaille avec des compresseurs, façonner du bois, je sais construire un toit, j'ai joué dans un théâtre de marionnettes et même fabriqué des marionnettes, animé des émissions à la télévision, été conférencier. Et donc, il faisait aussi de la peinture, il a réalisé quelques films, et puis il a aussi écrit des livres pour enfants qui sont aujourd'hui célèbre. Dans tous les programmes scolaires serbes.
D'accord.
Donc, c'est juste pour saisir un peu. Et puis, c'était un peu aussi un bohème pour saisir un peu le personnage.
Donc il était dans les programmes à l'école du temps, dans les années.
Il y est toujours, oui.
D'accord. Ouais. Une espèce de. Oui. Donc, Milan, tu as choisi un.
Ouais, du coup, je vais lire un poème qui, voilà, où on va entendre un petit peu déjà la sonorité de la langue et. Voilà.
En serbe.
Sa manière aussi d'écrire, quoi.
Ok. Donc, la variante serbe voïvodine, plutôt.
Oui. Je vais pas. Enfin, j'étire plus trop les mots. En tout cas, moins que mon père, mais.
Ok.
Le poème s'appelle Épilogue. Ovo nije ispovest. Ovo je gore nego molitva. Hiljadu puta od jutros, kao nekad te volim. Hiljadu puta od jutros, ponovo ti se vraćam. Hiljadu puta od jutros, ja se ponovo plašim za tebe. Izgubljenu, u vrtlogu geografskih karata. Za tebe, podeljenu kao plakat, ko zna kakvim ljudima. Da li sam još uvek ona mera po kojoj znaš ko te voli? Po kojoj znaš koliko su pred tobom svi drugi bili goli? Ona mera po kojoj znaš ko te otima, a ko plaća. Da li sam još uvek među svim tvojim životima onaj komadić najčistijeg oblaka u grudima i najkrvavijeg saća?
Alors juste j'ai une question Valentina. Est-ce que tu as compris quelque chose? Tu as compris
Non, je compris mieux tchèque comme
mieux tchèque. Oui. D'accord, c'est normal, c'est plus proche. Oui. Géographiquement en tout cas.
Oui, c'est ça.
OK. Milan, donc on t'a entendu lire dans cette belle langue serbe ce poème. Est-ce que tu as la traduction?
Oui, j'ai la traduction.
Tu es prêt à la livrer?
Épilogue. Ceci n'est pas une confession. Ceci est pire qu'une prière. Mille fois depuis ce matin, je t'aime comme jadis. Mille fois depuis ce matin, je te reviens de nouveau. Mille fois depuis ce matin, j'ai de nouveau peur pour toi, perdu dans le tourbillon des cartes géographiques. Pour toi, distribué comme une affiche à on sait qui. Est-ce que je suis encore cette mesure selon laquelle tu sais de qui tu souffres? Selon laquelle tu sais combien les autres ont été nus devant toi? Cette mesure selon laquelle tu sais qui te dérobe et qui paye? Est-ce que je suis toujours parmi toutes tes vies, ce petit bout du plus pur nuage dans ta poitrine et du plus sanglant nid d'abeille?
Très joli.
Voilà, après, voilà ce que je disais tout à l'heure, oui, il a un côté dans d'autres poèmes voilà, assez direct.
C'est très frais, quoi. C'est très.
Et assez simple, que j'aime beaucoup. Ouais.
Mm-hmm. Une petite touche surréaliste, un peu à la Prévert aussi. Hein. Très bien. Alors, Diana, tu as apporté une poésie de Šantić.
Aleksas Šantić. Oui, c'est une poésie que j'aime beaucoup, enfin qui s'appelle Emile. Et voilà, Šantić, c'est un poète en tous les cas, cette poésie, elle a 100 ans. Et puis je trouve que, enfin, je l'aime beaucoup parce que elle, c'est un mélange de toutes les cultures et puis de.
Šantić était de Bosnie.
Alors voilà, en Bosnie, à Mostar.
C'est un Serbe de Bosnie.
Un Serbe. De Mostar, ouais.
Plus précisément de Mostar.
Ouais, plus précisément. Et donc ouais, ce poème, bon, il a chanté plein de chansons, mais enfin plein, ouais, il a écrit plein de poèmes et beaucoup de poèmes d'amour.
Les Sevdalinka notamment. On appelle ça des Sevdalinka.
Ouais,
non.
Ouais, bah vous, ouais, toi tu connais toi.
Bah pour moi Sevdalinka c'est plutôt les chanter, enfin les chansons. C'est, ouais. Oui, c'est pas les poèmes. Ouais. Ouais.
Et donc ce poème, c'est ça. Et justement ce poème, il depuis 100 ans là, il est chanté par plein de chanteurs dans justement, et il fait partie maintenant des chansons populaires de Sevda.
Enfin, voilà, des chansons de, c'est des chansons d'amour un peu. Enfin, c'est un genre qui s'appelle Sevdalinka. Et ça vient d'un mot turc qui est, je crois que la mélancolie en fait.
Ouais, oui, alors. Ça.
Mais l'amour mélancolique.
L'amour triste et impossible.
Voilà.
Et j'aime beaucoup. Alors, on va passer un morceau de Himzo Polovina, qui la chante. Et je peux lire le premier couplet. Vous m'excuserez de mon accent. Qui n'est pas... Bon, moi, je suis française, hein, d'origine ex-yougoslave, pas comme Milan, qui est...
Tu es excusée.
Bon, j'y vais. Alors, sinoć kad se vratih iz topla hamama, prođoh pokraj bašte staroga imama. Kad tamo u bašti u hladu jasmina, sibrikom u ruci stajaše Emina. Je continue un deuxième couplet ou...
Le premier.
Donc, hier soir, lorsque je revenais du chaud hammam, je passais devant le jardin du vieil imam. Et que vois-je dans ce jardin, dans l'ombre du jasmin, se tient Emina, librique à la main.
La librique est peut-être la carafe, on ne sait pas trop en fait. Une carafe ou
Oui, une sorte de carafe.
Un pot.
Un pichet, un pot. Ouais.
Et bon, on verra après la chanson, mais il y a plein de mots turcs dans cette chanson.
Un mot d'origine, un mot turc, voilà, ottoman, vous allez dire ottoman. Parce que, ouais. Non. Donc on va écouter cette chanson de cette Sevdalinka de Himzo Polovina.
Il n'arrive pas à la lire.
Problème technique.
Ouais. C'est peut-être le fichier qui est pas bon. C'est peut-être pas un MP3. Si. Ben, je vais la chanter sinon.
Ou sinon tu continues à lire peut-être pendant que. Ah ben.
Ouais, c'était agréable. Ah, ah merci. Ouais. Le temps qu'on trouve la chanson.
Diana, bah oui, tu peux le lire.
Bah, en fait, pas en entier.
Ou peut-être avec Milan.
Bah, je peux. Tu veux lire le deuxième?
On fait ensemble.
Alors, je commence, on fait ensemble. Alors, je.
Bah, vous relayez.
Allez, vas-y, commence alors.
Voilà, vas-y, tu commences et moi je.
Yayoy nazvach selam al mogamidina.
Ne tieni da chuje.
Liepa emina.
Non.
No, u srebren ibrik
zahitila vode,
pa po bašći džule zalivati ode. Merci. Je lui dis bonjour, mais ma foi, la belle Emina ne m'écoute même pas. Elle prend de l'eau avec son ibrik et arrose les roses de son jardin.
Skrana vjetar puhnu. Pa niz pleći puste, raspleteju njene
pletenice guste.
Zamirisa kosa, ko zumbuli plavi. U meni se krenu bururet u glavi.
Malone
posrnuh
mojega midina, al meni ne dođe lijepa Emina. Samo moj je jednom pogledala mrko,
niti haje, alčak, što za njome crko.
J'ai trouvé sur internet la chanson.
Allez,
ok, Emina, chantée par Himzo Polovina.
Super.
C'est vieux, je pense. Ça date des années quoi, 70
60, je pense.
60.
De Polovina.
Oui.
C'est, ouais. Mais sinon, le poème, il date de 1905-1904.
Voilà, c'est déjà ancien.
Tu vois,
quoi.
C'est un ancien...
Ouais, où on sent une influence orientale, quoi, en fait.
Puis le lexique, oui, turc. Ouais,
les mots turcs.
Ottoman ou turc.
Kapiđik otvori, jer moga mi dina izvalit ću direk i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom belija umrije Emina. Sinoć kad se vraćam,
iz topla mama rođo pokraj bašće staroga ima. Kad tamo bašći u hladu jasmina sibrikom u ruci stajaše mina. Ja joj nazvah se neće ni da čuje lijepa Ermina. Već u srebreni brik zahvatila vode, pa niz bašću đule zaljevati ode. Pa niz bašću đule zaljevati ode. Grano vjetar duhnu, pa niz pleći puste rasplete joj one pletenice guste. Za miri sa kosa ko zumbuli plavi, a meni se krenu buret u glavi. Za mal ne posrnu mojega mi dina, meni ne dođe lijepa Ermina. Samo me je jednom pogledala mrko, al nehaj je alčak što za njome crko. Niti haj je alčak to za njome crko. Aši, ajša, javaša, konja jaše, subaša. Aši, ajša, javaša, konja jaše, subaša. Po bašći se šeće.
Voilà, c'était Emina, chantée par Rimzo Polovina, une chanson d'amour Sevdalinka de Mostar. Alors il est temps de mettre fin à cette émission, ça a été rapide, ce tour d'horizon extrêmement rapide des différentes familles et langues slaves, différentes musicalités. La prochaine émission sera consacrée à une langue ibérique. Alors on sait pas. Je ne sais pas encore si ça sera le portugais ou l'espagnol, mais voilà, on ira vers le sud, vers le sud-ouest. Ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute et à demander à mes différents invités de vous dire au revoir dans leur langue, Valentine.
Итак, до свидания, до скорой встречи, надеюсь.
Спасибо, Валентина. Диана.
До видения.
До видения, чао, видимося.
Видимося.
Приятно.
Voilà. Et merci Nicolas pour cette belle initiative, cette émission.
Voilà.
Voilà lepo.
Et до скорой встречи на нашем фестивале. Et bienvenue dans notre festival L'âme slave, où on peut trouver place pour tout le monde.
Voilà, pour toutes les langues slaves et pour toutes les cultures slaves. Ben, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine édition de Poésie en version originale.
Bašća od jasmina, salomljen je ibrik, uvelo je cvijeće, pjesma o Emini nikad umrijet neće. Salomljen je ibrik, uvelo je cvijeće, pjesma o Emini nikad umrijet neće.
Alors, c'était Poésie en version originale. Voilà, transition un peu brutale.
On est des, comment on pourrait dire ça, des animateurs bénévoles, sondiers, tout ce que tu veux. Mais voilà, en tout cas, c'est possible dans cette radio d'être novice et de prendre les manettes du direct. Et ça, c'est cool.